Bonsoir à tous, l'heure est grave, excusez-nous pour cette interruption, événement exceptionnel, moment exceptionnel. Nous devons en effet interrompre Question à la Une pour vous présenter une page très spéciale du journal télévisé. La Flandre va proclamer unilatéralement son indépendance, vous l'avez compris, le moment est important. En clair, la Belgique en tant que telle n'existerait plus. Les différentes rédactions de l'RTBF sont bien sûr ce soir mobilisées, excusez-moi. Voilà, on me confirme d'ailleurs à l'instant par téléphone que des événements de la plus haute importance se déroulent. Nous allons retrouver tout de suite en direct Frédéric Gersdorf. Il est aux abords du Palais Royal en plein cœur de Bruxelles. Frédéric, que se passe-t-il pour l'instant ?
Eh bien, François, c'est un véritable coup de tonnerre ici au Palais Royal. Il se murmure, c'est encore seulement un murmure, mais qu'Albert II projetterait de se déclarer dans l'impossibilité de régner suite à ces décisions que le Parlement flamand prendrait de façon imminente, une décision avec laquelle le roi Albert II est en total désaccord. Alors le roi lui-même est sorti du palais, c'était en toute fin d'après-midi, aucun commentaire, mais là c'est une habitude. On a vu le roi donc qui était sur le siège conducteur à l'arrière. Un militaire qui était là, quelle direction a pris cette voiture, on ne le sait pas. De façon très symbolique, le drapeau belge a été abaissé pavillon donc du Palais Royal. Encore une autre chose que nous avons pu voir, ce sont des images qui sans doute viennent d'arriver à l'RTBF, elles ont été tournées il y a quelques minutes, c'est à l'aéroport de Melsbrook où on a vu effectivement le roi, la reine et toute une série de proches, des militaires qui étaient présents sur le tarmac. Ils allaient donc grimper dans un avion de la Défense nationale. Alors quelle destination a pris effectivement cet avion, ça on ne sait pas le dire aujourd'hui.
On essaiera d'en savoir plus, bien sûr, Frédéric. Et puis donc, la décision du roi ressemble bien évidemment à un coup de colère, une décision qui fait suite à ce que le Parlement flamand souhaite aujourd'hui. Mais que souhaite-t-il exactement ? On va avoir plus de détails à l'instant même avec Christophe de Boursu. Christophe, que se passe-t-il au Parlement flamand ?
François, je me trouve devant la façade du Parlement flamand et ce que je peux vous dire, c'est que nous avons confirmation depuis quelques instants, les parlementaires réunis ici viennent de décider à une écrasante majorité, semble-t-il, l'indépendance de la Flandre, l'indépendance pour tout de suite. Vous le voyez et vous l'entendez derrière moi, une première manifestation s'organise à l'instant et donc on a entendu également il y a quelques minutes des exclamations, des hurrahs venant de l'Assemblée. Sans doute était-ce le moment où le vote a eu lieu, mais donc on ose à peine le croire, François, à l'instant où je vous parle, la Belgique a cessé d'exister.
Franck, dans cette soirée un peu folle qui fait suite à la déclaration d'indépendance de la Flandre, vous possédez des images et des informations inédites à propos de l'atomium, Franck.
Bien oui François, je me trouve devant l'atomium qui a été rénové récemment et c'est ici que le gouvernement bruxellois a décidé de se réfugier un peu comme pour marquer son attachement à la Belgique. Nous sommes en mesure de vous révéler ce soir que c'est dans la 10e boule de l'atomium, un lieu totalement secret, que s'est réuni le gouvernement bruxellois. Alors cette 10e boule de l'atomium a été construite pendant la rénovation, elle a été construite sous terre et elle est reliée au centre de Bruxelles par toute une série de tunnels souterrains et c'est ces tunnels que les ministres bruxellois ont empruntés pour venir se réunir ici.
Ceci n'est pas une pipe. Vous connaissez évidemment la toile du peintre belge Magritte. Ceci n'est pas une pipe. Et bien, ce que vous venez de... Alors que c'est une pipe qu'on voit de toute évidence. Et bien, voilà, c'est des extraits de ce qui s'est passé mercredi soir sur la RTBF, chez nos confrères de la radio-télévision belge. Une formidable imposture, un canular. Qui avait pour thème, et c'est une chose à quoi, un sujet auquel évidemment nos amis belges sont très attachés, c'était cette canular annonçait la fin du royaume, pas moins. Et la plupart des téléspectateurs y ont cru tellement c'était parfaitement fait. Mais ce qui est à retenir, c'est que c'était une formidable démonstration, un démontage du langage médiatique, en l'occurrence du langage télé, des journaux télé. C'est une parodie absolument réussie qui fait que je pense que désormais les Belges ne verront plus jamais leur journal de 20h de la même façon. Et puis c'est une façon comme une autre d'étonner, de choquer et de faire comprendre l'absurdité politique d'une division de ce petit pays. En tous les cas, c'est une une réussite étonnante, une façon de, une mode d'expression dont les Belges ont le secret. Il y a un génie particulier dans ce pays que nous méprisons tant, ou trop souvent en tout cas. Voilà. Aujourd'hui, on l'avait annoncé hier, les OGM. Vous savez que notre ami José Bové a été mis en garde à vue hier, il a été libéré. Et c'est quand même venu un drôle de moment où le gouvernement français a été rappelé à l'ordre par la Commission européenne, justement sur la question des OGM. Alors, ça a intéressé Antoine Chao, et on va essayer de comprendre un peu ce qui se passe, et puis de revenir sur cette histoire des OGM. 80% des Français sont contre les OGM, en gros, c'est comme ça. Bon, bien sûr que il y a des usages qui sont faits des OGM, mais ils sont contre. Et alors que, les gouvernements successifs et le gouvernement actuel, qui est censé, comme tous les autres, suivre cette opinion, le marketing électoral est là, va contre l'opinion. Et c'est un phénomène assez intéressant. Celui-là aussi, voilà, ça va nous préoccuper jusqu'à 16h dans la basse, si j'y suis. Après, ces quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonsoir Daniel, bonsoir les AMG, c'est le repère de la place Beauvau. Salut Daniel, salut tout le monde. C'est juste pour vous dire que ce samedi 23 décembre, de 14h à 20h, nous avons un concert de soutien pour tous les gens qui habitent à Paris ou en banlieue parisienne. Un concert de soutien pour des familles hongroises qui ont été expulsées. Il n'y a pas qu'à Cachan, hein. Et qui, donc, étaient expulsées par les CRS et qui ont trouvé refuge à Neuilly. Et donc, on fait un concert avec le comité de soutien pour aider à la médiatisation de tout ça. Essayer de pousser à la roue, quoi. Pour que ces familles aient leur régularisation et ne soient pas expulsées. Donc c'est samedi 23. Ça se passe à Paris, place Beauvau. Métro Champs-Élysées, Clémenceau ou Madeleine. Parking en gravier, possible. Sans chichi, au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré. Dites que vous venez de la part de Nicolas et c'est de 14h à 20h. Une après-midi entière avec des groupes et la présence exceptionnelle de Pascal Sevran, Doc Gynéco et Johnny Hallyday. Quoique je crois que Johnny fait une émission de déco sur M6 en même temps, une histoire de chalet aménagé, je crois. Il faut que je check le planning. Donc voilà, il y aura de la musique, il y aura la fête, et plus on sera nombreux, mieux ce sera. Venez très nombreux pour signer la pétition et soutenir ces familles hongroises qui ont vraiment besoin de vous. Voilà, merci à tous par avance et à samedi, le 23, place Beauvau. Au revoir, c'était Brice de Paris, 16e, pour le repère de la place Beauvau.
Salut Daniel, c'est Inga de Paris 18. Alors nous, les parents d'élèves du 18e, on n'est pas du tout d'accord pour que M. Sarkozy il envoie les copains de classe de nos enfants dans des pays qu'ils connaissent pas et dont même ils parlent même pas la langue. Alors ce soir, avec le réseau Éducation sans frontières, on a décidé d'ameuter tout le quartier. Et plus, il y a affinité, bien sûr. Alors, on organise une grande chorale d'enfants, d'adultes, à 18h15, au pied du funiculaire de Montmartre, métro Anvers ou Abbesse. Donc il faut venir nombreux, bien sûr, très nombreux, pour soutenir ces familles qui ont peur, ces gens qui ont cru au Père Noël Sarko avec sa circulaire. Mais dans sa hotte, il n'y avait que 6926 régularisations pour 30 000 demandes. Alors venez nombreux, s'il vous plaît, venez très nombreux. On sera déjà beaucoup du 18e, mais si vous voulez venir d'ailleurs, vous êtes les bienvenus, bien sûr. Il y aura des chansons, il y aura du vin chaud, du chocolat. Puis il y aura des célébrités, il y aura des élus, il y aura des parents et des enfants. Puis il y aura des sans-papiers. Alors, je répète, c'est vendredi 15, là, à 18h30, au pied du funiculaire de Montmartre. Venez avec nous, et pour nous soutenir et les soutenir, eux, surtout. Merci.
Oui, bonjour Daniel, c'est un petit message. Daniel, c'est Thomas, du fin fond du Pays Basque. Une petite vallée entre Saint-Jean-Pied-de-Port et la frontière espagnole qui va être massacrée par des cons, par des ploucs locaux, tu vois, des présidents du conseil général, des espèces de gars qui mettent leur portrait au dos des dictionnaires, des petits garçons et des petites filles qui viennent à l'école à l'âge de 11 ans, tu vois, pour leur faire croire que c'est des gens importants. Et alors ces gens-là, ils vont faire une espèce d'autoroute, tu vois, pour desservir une espèce de... un espèce d'internationalisme que plus personne défend, à l'époque où tout le monde parle de ferroutage, où tout le monde parle de containers de camions qui devraient être mis sur des péniches avec des ports comme Bilbao à côté. Ils vont faire une espèce d'autoroute entre Pampelune et Pau, une espèce de rêve de petit garçon en béton qui va massacrer des vallées. Et tout ça est fait rapidement, en un mois, sans l'écoute des gens qui sont sur place, tu vois, alors que le pays ne vit que de tourisme, on va dire, maintenant, et d'agriculture. Tout ça va être massacré, tout ça va être délaissé au profit de quelques idées de certains. Alors voilà, avec Agnès, on en a un peu marre. On était là à une manif ce matin et on veut profiter de ton émission pour dire qu'il y a une grosse manifestation à Saint-Palais, au Pays Basque, le samedi 30 décembre, à 14h30. Voilà. J'espère que tous les gens qui en ont un peu ras-le-bol de tous les gros cons qui essayent de mettre en place des schémas sur notre planète qui ne ressemblent à rien viendront.
Ouais, eh ben les Américains, je crois que là, faut arrêter. Hein. Ils sont ravagés du bocal. Franchement, moi je suis d'une génération 35-40, quand j'entends des choses pareilles, mais il y a vraiment de quoi s'asseoir. Et après on vient nous dire que les islamistes, ils sont fanatiques. Mais je crois qu'eux, ils sont pas mieux. Hein. Enfin bref, en espérant que ça va s'arranger un jour. D'ici à ce que l'Antéchrist arrive, c'était quand même Sébastien, de la région Haute-Savoie. Merci, au revoir.
J'ai écouté votre reportage sur Holy Land hier. Voilà, alors je voulais dire que moi je suis chrétienne, je crois que Jésus-Christ est ressuscité, et pourtant je ne suis pas en faveur de la peine de mort, et je ne pense pas que la religion musulmane soit une religion diabolique. Je vis un peu mal le fait que vous alliez toujours interviewer les chrétiens les plus réactionnaires et les plus caricaturaux. Et pour moi, leurs idées ne sont ni fidèles à l'évangile, ni représentatives du monde chrétien. Moi, j'ai rencontré une personne il y a 16 ans, une personne qui s'appelle Jésus-Christ, et cette personne a changé ma vie. Et cette personne ne se laisse pas enfermer dans des schémas ni dans des idéologies. Voilà, c'était Tiffaine de Bourges.
Je dirais que dans notre société marchande, où tout doit être marchandisé, eh bien, il est clair que la nature a commis un énorme délit, c'est de pouvoir se reproduire gratuitement. C'est comme les rayons du soleil qui pénètrent par les fenêtres. C'est un concurrent déloyal vis-à-vis des vendeurs de bougies. On est exactement dans la même logique.
Salut, c'est la base où j'y suis, Daniel Mermet, avec Antoine Chao et Christian Vélo, OGM. Flight number 2, arriving from Tokyo.
Alors on est à Orsay, on descend du RERB, Orsayville, et on attend Christian Vélo. Chercheur biologiste à l'université d'Orsay. Alors aujourd'hui, dans le Monde, daté du 14 décembre, OGM, la Commission, demande une amende de 38 millions contre la France. La Commission a demandé à la Cour de justice européenne, mardi, de condamner la France à une amende de 38 millions d'euros, plus une astreinte journalière de 370 744 euros pour transposer la directive sur la dissémination des OGM. Christian Vélo va peut-être nous décrypter un peu cette information qui semble un peu obscure.
Oh, il est un peu braillard, hein. Il est un peu braillard, hein. Hein, un peu braillard, un peu folklore, quoi. Ouais, ouais, c'est les écolos, quoi. Hein, voilà, c'est les écolos. Un peu bonnet, oui. Oh, c'est leur truc, quoi. C'est un genre, voilà. Un peu niais, quoi. Voilà, ouais. Imaginez une manif comme celle-là, entre les deux guerres, ou après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Et au lieu de parler d'OGM, les mêmes manifestants auraient gueulé contre l'amiante. Hein ? Ou, voilà, contre l'amiante. D'ici à 2025, on aura, concernant l'amiante, 3000 décès par an. 3000 décès par an. Et eh bien l'amiante, on avait confiance, ça posait pas de problème, c'était un matériel, un matériau moderne, bien sûr, les scientifiques y avaient pensé, les avaient analysé, c'était étudié pour, vous vous souvenez la blague de Fernand Reynaud, c'est étudié pour, bah, c'était étudié pour. Voilà, il y a une autre petite information concernant l'amiante, au Brésil, c'est loin le Brésil, 3 sénateurs et 2 députés, était payé, avait reçu 30 000 euros, l'équivalent de 30 000 euros, par des entreprises d'amiante. Et ils ont été poursuivis devant la Cour suprême. Oh, une petite information. Ça montre qu'il y aurait comme genre de corruption, pas chez nous, bien sûr, hein, je parle du Brésil, c'est loin, le Brésil. Mais de collusion, de lien entre le monde. Bah, du business, des affaires et les élus. Amiante, lien entre le politique et les grands semenciers, tout ça, il est possible que ça joue. Non ? Vous ne croyez pas ? Un peu ? Oui ? Certains sont absolument persuadés, d'autres en doutent. Voilà pourquoi, avec Antoine Chao, on va passer presque l'heure entière avec Christian Vélo. Antoine vient de le dire, Christian Vélo est chercheur et maître de conférences en génétique moléculaire à l'Université de Paris Sud 11. Et on va essayer de comprendre calmement les enjeux et ce que représente, ce qu'il y a derrière ce mot OGM qui suscite toujours des passions souvent irraisonnées. Il y a quelque chose de pas raisonnable là-dedans parce que ça touche à des choses très anciennes, très profondes, la terre, la nourriture, le vivant, tout ça évidemment c'est pas rien. Donc ça suscite et ça soulève de grandes inquiétudes et rien n'est fait pour nous rassurer. Parce que qu'est-ce que 999 auditeurs sont dans notre situation, c'est-à-dire qu'on n'est pas des spécialistes, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas des chercheurs en génétique. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on accepterait ou pas ? Ben c'est la confiance. C'est la confiance. Mais pour que cette confiance existe, il faudrait qu'il y ait des systèmes de contrôle et qu'on ait confiance dans les contrôleurs. Or, c'est pas tellement le cas. Je viens d'évoquer le cas de l'amiante, j'aurais pu parler de la dioxine, par exemple. Et puis, on entend toujours ce mot de déréglementation, libre-échange, etc. C'est pas fait pour nous inspirer confiance par rapport à, quand même, un sujet extrêmement préoccupant. Alors, du coup, tout le monde est contre, enfin, une grande majorité des Français, et des Européens, d'ailleurs, sont contre, se méfient. Et donc, voilà, pourquoi on va essayer d'en savoir plus jusqu'à 16h dans la base si j'y suis, OGM.
On me change, on me transforme. Je ne suis plus comme avant. Je suis foutu, je suis aux normes. Je ne ressemble plus à ma maman. Maman, et hop là. Éthiquement, ça me gêne qu'on modifie mes aliments. Faut être entrant sans gêne pour facilifier mes éléments. Regardez la tête que j'ai, je ne suis plus le même homme. Stéréotypé, homogénéisé, ils ont changé le génome. N'est plus le même. J'ai 3 fois plus de dents. Quant à mes pieds, c'est pareil. Ils sont palmés, c'est palpitant. Tous ces stratagèmes, j'aime pas beaucoup. Tous ces gens qui sèment la mauvaise graine n'importe où. C'est pas un grain, c'est un gros caillou. J'aime pas beaucoup. On me change, on me transforme. Je ne suis plus comme avant. Je suis foutu, je suis au nord. Mario.
j'ai vu une petite note dans Le Monde, là, en arrivant. Donc il va falloir que vous décryptiez.
Ah.
La commission demande une amende de 38 millions contre la France, hein, c'est dans le cas des OGM.
Oui. Voilà.
Donc la commission a demandé à la Cour de justice européenne, mardi, de condamner la France à une amende de 38 millions d'euros, plus une astreinte journalière de 366 644 euros.
Oui.
Pour transposer sa directive sur la dissémination des OGM. Ça veut dire quoi?
Alors, ça veut dire que 2 fois 168 800, qui correspondent en fait à la non-transposition de deux directives européennes, l'une concernant les OGM en espace confiné, notamment ceux qu'on utilise nous en laboratoire dans le cadre de la recherche, etc., et l'autre concernant les OGM en plein air. Ça ne l'est pas encore parce que c'est une véritable patate chaude pour un gouvernement dans la mesure où il y a 80% de la population qui s'oppose à la culture d'OGM en plein champ. Donc évidemment aujourd'hui, à la veille des élections, c'est véritablement la patate chaude. Donc en fait, le projet de loi a été discuté au Sénat pour la première fois au mois de mars parce qu'en fait, bon, c'est chaque État membre de la Commission européenne qui est libre à l'intérieur de ce cadre d'y mettre le texte qu'il veut. Et donc, évidemment, tout le monde souhaite que, y compris ceux qui s'opposent aux OGM en plein champ, que cette directive soit transposée en droit français. Mais pas à n'importe quel prix. C'est-à-dire qu'il s'agit, en fait, que cette loi soit suffisamment contraignante pour qu'elle ne se traduise pas dans les faits par l'autorisation, en fait, d'aller disséminer des OGM à tout va. Alors que le projet de loi qui nous est proposé en France est un projet de loi totalement laxiste pour les cultivateurs d'OGM. Et par exemple, l'Allemagne a transposé cette même directive européenne, mais elle l'a transposée dans un contexte beaucoup plus contraignant pour les cultivateurs d'OGM. Par exemple, en cas de contamination, il n'y a aucune sanction de prévue pour les semenciers. Hein, il y a juste une indemnisation qui doit être payée par les cultivateurs d'OGM. Et en plus, cette indemnisation ne concerne que les agriculteurs qui seraient contaminés par des OGM la même année et à proximité d'une culture OGM. Autrement dit, c'est une restriction de la contamination dans l'espace et dans le temps. Ça n'a pas de sens, puisqu'on sait aujourd'hui que des contaminations peuvent être dues à des repousses de cultures qui ont été faites les années précédentes, que ça peut venir non pas d'un voisin, mais d'un cultivateur qui a cultivé bien au-delà, parce que le pollen, ça ne s'arrête pas à 200 mètres comme le nuage de Tchernobyl à la frontière franco-allemande, enfin, etc. On est dans un projet de loi totalement laxiste pour les cultivateurs d'OGM. Et donc, dans ce contexte-là, les gens qui s'opposent aux OGM en plein champ, c'est pas qu'ils ne veulent pas de la transposition de la directive européenne, mais ils ne veulent pas de la manière dont on nous propose de la transposer.
Alors, qui l'a transposée de cette façon-là?
C'est le ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur. Par contre, ceux qui communiquent sur ce projet de loi, c'est le ministre de l'Agriculture. On voit très bien qu'il y a une volonté à travers ce projet de loi de faire de la question des OGM une question purement scientifico-scientifique qui exclut tout le reste de la société civile.
Intéressant, non? Intéressant ce que nous dit Christian Vélo. Je le rappelle, chercheur en génétique moléculaire à l'Université de Paris Sud 11. On va avec lui dans son laboratoire et il va nous éclairer, nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Et il y a beaucoup d'aspects, évidemment, dans cette affaire d'OGM. Et bien sûr, je le disais en commençant, on est intimidé parce qu'on n'est pas les spécialistes. Mais c'est ça la démocratie. Hein, la démocratie, c'est fait par des gens qui n'y connaissent rien. Et oui, bien sûr, s'il fallait attendre que chacun d'entre nous soit spécialiste de tout pour prendre une décision, pour voter, on voterait jamais. Donc, voilà, la démocratie, ce sont des généralistes, disons, qui prennent des décisions éclairées par les spécialistes. Mais faut-il encore que ces spécialistes aient des compétences qui dépassent leur spécialité. Et oui, un spécialiste, c'est quelqu'un qui connaît quelque chose à fond, mais pas le reste, pas nécessairement le reste, pas le rôle du profit, par exemple, ou du social, de la société, de l'homme ou du profit. Est-ce que c'est, on n'apprend pas à ça quand on fait des études de génétique moléculaire, on apprend la génétique moléculaire, mais on n'apprend pas ça. Et ça, c'est l'opinion, c'est l'avis général, c'est le bon sens, c'est toutes ces choses un peu floues, un peu lourdes, mais le peuple, c'est ça. Et le peuple, en France, ne veut pas de ces OGM. Alors, pourquoi?
Attention, 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 attention,
manipulation génétique.
Donc on a dressé le totem du sacro-saint savoir scientifique, hein, pour imposer comme ça une politique mercantile.
Il y a deux choses. Je dirais qu'il y a des pressions mercantiles, évidemment, donc, de la part de firmes semencières. Et il n'y a pas que dans ce domaine-là. On le sait bien que les pouvoirs politiques sont soumis aux ordres des finances. Et puis, il y a toute une idéologie scientiste. Une idéologie scientiste, et ça, c'est pas à négliger du tout, parce que on dit, bon, il y a des scientifiques qui sont pro-GM parce qu'ils ont des intérêts financiers, ils sont liés à des firmes. Ça existe, certainement, ça existe, mais c'est une minorité. Par contre, la grande majorité, je dirais, des scientifiques, qui d'ailleurs, souvent, pour certains d'entre eux, n'y connaissent pas plus en OGM que Thierry Roland dans ce classique, hein, c'est typiquement Claude Allègre, Gilles de Gennes, qui se permettent d'affirmer des choses alors qu'ils n'ont jamais vu ni construit un OGM de leur vie. Et quand on lit leur argumentaire, si toutefois on peut appeler ça un argumentaire, eh bien c'est uniquement basé sur une idéologie scientiste, comme quoi la science c'est forcément bon. Tout ce qui sort d'un laboratoire est forcément bon pour l'humanité, parce que c'est le produit d'une activité de recherche et on se pose pas de questions. Et en fait, je le vois bien, moi, à l'université, avec le cursus que j'ai connu, que mes collègues ont connu, où on fait 10 ans d'études pour obtenir un doctorat en biologie, et sur ces 10 ans d'études, on n'a pas une seule heure de philosophie, une seule heure d'éthique des sciences, on est complètement moulé à la louche, et on ne nous demande pas de voir plus loin que le bout de notre éprouvette. Et ça ne fait que contribuer à creuser le fossé qui sépare le monde de la science d'un côté, de la société civile de l'autre. Quand on sait évidemment les graves problèmes qu'il y a eu récemment, ou il y a quelques années, avec l'amiante, avec la dioxine, où on avait dit aussi qu'il n'y avait pas de problème, etc., bien, les citoyens ne veulent plus faire confiance aux scientifiques. En fait, on est en train complètement de casser le contrat de confiance qu'il pourrait y avoir. Et je crois que cette idéologie scientiste, elle est pour beaucoup dans le lobbying qui autour des OGM, tout comme c'est vrai aussi avec la thérapie génique autour du Téléthon, etc. On est dans la même logique, dans le même problème.
Quand je vous dis science, qu'est-ce que ça évoque pour vous ?
Toutes les petites découvertes qui sont dans le milieu de la recherche ou des choses comme ça, et ben après c'est voir comment les gens vont la détourner et l'appliquer dans notre société. Enfin...
C'est pas un hasard aujourd'hui, hein, s'il y a propriété privée sur le vivant. Le vivant, c'est la matière première des biotechnologies.
Et du coup, moi je me fais plein d'histoires, parce que je m'imagine des fois des trucs qui pourraient être... qui peuvent faire peur parce que...
Une partie du patrimoine génétique de l'humanité aujourd'hui est privatisée.
Là, on est donc sur le centre scientifique d'Orsay, hein, qui fait partie de l'Université Paris-Sud. L'Université Paris-Sud, ça comprend donc Orsay, ça comprend Kremlin-Bicêtre pour la médecine, Châtenay-Malabry pour la pharmacie, Sceaux pour la gestion, etc. C'est une énorme usine à gaz, hein, cette université. Le campus d'Orsay, il est plus grand que la principauté de Monaco, mais on n'a pas les mêmes moyens. Et on a en fait tout le pôle biologie, mathématiques, physique, chimie, etc. Et donc là, vous êtes dans un institut de biologie, et plus précisément l'institut de génétique et microbiologie, donc qui est une unité mixte de recherche université CNRS. Voilà. Allez-y. Ici, on fait de la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, ça a pour but de comprendre comment ça marche, hein, et c'est-à-dire décortiquer les processus biologiques, et notamment dans ce cadre-là, quand on est biologiste moléculaire, ce que je suis, on est utilisateur de la technologie OGM. Je dirais qu'on l'utilise à tour de bras, parce que c'est une approche parmi d'autres, hein, c'est une technique parmi d'autres. Donc on est utilisateur, comme n'importe quel biologiste moléculaire, et je dirais que c'est parce que on l'utilise toutes les semaines, ou qu'on en fabrique toutes les semaines, des OGM en laboratoire, que je trouve totalement irresponsable. Je sais justement à quel point on ne maîtrise pas les conséquences des modifications génétiques sur un organisme, et qu'il est totalement irresponsable de les disséminer dans l'environnement et de les introduire dans la chaîne agroalimentaire.
Alors c'est quoi alors, concrètement un OGM ?
Alors, un OGM, un organisme donc génétiquement modifié, c'est un organisme vivant, alors ça peut être un animal, un végétal, un microbe, hein, dont on a modifié de façon non naturelle, c'est-à-dire par intervention de la main de l'homme, ses caractéristiques génétiques initiales, notamment en introduisant dans cet organisme des gènes qui ne lui appartiennent pas. Par exemple, vous prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans le maïs est un OGM. Vous prenez un gène de bactérie, vous le mettez dans l'éléphant est un OGM. Vous pouvez prendre un gène humain, le mettre dans une bactérie, c'est la bactérie qui sera un OGM. Alors les gènes, c'est quoi? Les gènes, c'est des molécules, des morceaux de chromosomes, hein, donc d'ADN. L'ADN, c'est le support chimique des chromosomes. Ces molécules sont codées dans un langage qu'on appelle le langage génétique, hein, et détiennent le secret de fabrication de protéines. Et les protéines, ce sont un petit peu les acteurs de tous les processus biologiques qui ont lieu dans chacune des cellules qui constituent tout organisme vivant. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'un organisme vivant, c'est une compilation de mini-usines, ce sont les cellules. Dans ces cellules, dans ces mini-usines, ont lieu des processus biologiques, des chaînes de montage et des chaînes de démontage. Sur ces processus biologiques, donc ces chaînes de montage et de démontage, travaillent des ouvriers, ce sont les protéines. Et le secret de fabrication de ces protéines est contenu dans les gènes. Donc, quand vous mettez un gène de bactérie dans le maïs, par exemple, le langage génétique étant universel dans tout le monde du vivant connu à ce jour, eh bien, le maïs prend le gène de bactérie à son propre compte, le décode et fabrique là où les protéines correspondantes. Autrement dit, quand vous mettez un gène de bactérie dans le maïs, vous introduisez des ouvriers de l'usine cellulaire bactérienne dans l'usine cellulaire végétale du maïs. Ils vont contribuer à une nouvelle chaîne de montage ou de démontage qui va donc conférer des nouvelles propriétés à cet organisme génétiquement modifié, c'est-à-dire dans mon exemple, le maïs.
Et ce qui me paraît important aujourd'hui, c'est de dire très clairement, nous voulons un débat public. Nous demandons que les Français puissent, par référendum, décider si oui ou non ils acceptent des OGM. Tant que nous n'aurons pas ce référendum, nous continuerons les actions de désobéissance civique. Je suis en état de récidive en menant cette action. Je sais très bien que demain, les gendarmes peuvent venir me chercher chez moi pour l'action qui a été menée, mais aucune raison, aucune justification m'empêchera d'être dans les champs pour mener cette action de décontamination. Ici, nous avons un champ qui fait plusieurs hectares, plus d'une dizaine d'hectares. Donc nous savons très bien que ce maïs a été semé, d'ailleurs avec grand renfort de publicité, en disant on va faire du maïs OGM pour le vendre en Espagne. Ça a été annoncé, l'agriculteur, ou le transgéniculteur plus exactement, qui a semé ce maïs, a dit très clairement qu'il avait vocation à exporter du maïs transgénique en Espagne. C'est quelque chose de parfaitement scandaleux, ça se fait au mépris de l'ensemble des paysans et des citoyens qui ne sont pas au courant. Je crois que depuis 8 ans que nous avons commencé les actions de fauchage, les choses sont en train d'évoluer. L'opinion publique, à plus de 75%, et refuse les OGM. Aujourd'hui, plus d'un Français sur deux reconnaît que les faucheurs volontaires, par leurs actions, ont permis au débat d'être sur la place publique, d'obliger les parlementaires à se saisir du débat. Donc tant que nous n'aurons pas la certitude qu'un débat public et un référendum sera organisé, eh bien, nous allons être contraints de continuer ces actions de désobéissance civique. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on risque de se retrouver à nouveau en prison pour avoir mené ces actions qui sont pour nous des actions de salubrité publique.
Ah, José Bové a passé 6 heures hier en garde à vue à Millau. Il connaît très très bien l'endroit, maintenant il est presque chez lui. Mais on voit qu'effectivement, pourquoi pas un référendum. Un référendum, où en quel sens ça irait, parce que là pour le coup, même si les sondages sont approximatifs, c'est autour de 75% des Français qui sont très très rétifs, qui demandent des moratoires, qui demandent des précautions, qui demandent d'être rassurés, mais qui ont déjà compris, sinon les Français, du moins dans un certain nombre de pays. Vous vous souvenez des reportages qu'on avait fait avec Guy Anctil en Inde sur le coton transgénique, le BT coton, où on voyait comment les paysans qui utilisaient ce coton traité de façon génétiquement modifiée devaient racheter à chaque année des semences, c'est-à-dire qu'ils étaient dépossédés, c'est une dépossession d'un rituel, enfin d'un suivi très très ancien depuis que l'homme cultive, et c'est très ancien. Eh bien, chaque année, on prélève une partie de la récolte, évidemment, et on peut ressemer l'année suivante. Eh bien, avec la maîtrise de la privatisation du vivant et les organismes génétiquement modifiés, c'est terminé. C'est les énormes multinationales comme Monsanto, Bayer, Pioneer, Novartis, etc., qui prennent le contrôle de l'agriculture, du vivant, de la culture. Dans l'agriculture, il y a culture, il y a cultiver. C'est donc, c'est pas rien. Éthiquement, philosophiquement, politiquement, socialement, tout ça n'est pas rien. Et demande réflexion et demande autre chose que le mépris, les lobbies et les pressions diverses et variées. On retrouve Christian Vélo. Je rappelle qu'il est chercheur en génétique moléculaire.
la seule raison d'être des OGM en agriculture, c'est de permettre à des firmes de déposer des brevets sur des plantes et ainsi de pouvoir avoir la main mise sur l'alimentation mondiale. Il est clair que c'est vraiment le point clé, quoi. C'est-à-dire que on a modifié génétiquement la plante, ça n'aurait pas pu se faire naturellement, donc on a introduit une sorte de plus-value dans la plante qui justifie la brevetabilité. Et évidemment, donc c'est pour ça que quand on nous dit que les OGM pourraient permettre de la faim dans le monde, qui est vraiment un argument qui tient pas la route et que j'ai encore entendu il y a pas longtemps dans la bouche de Gilles de Gennes, je veux dire, en quoi rêver ? Il est évident que, avec les OGM, on pourra jamais résoudre le problème de la faim dans le monde. Ça va totalement dans le sens contraire. La résolution du problème de la faim dans le monde, ça passe par l'autonomie alimentaire des pays du Sud et non pas, au contraire, par un accroissement de leur dépendance vis-à-vis des pays du Nord ou leur mise sous tutelle de firmes semencières. Or, avec les OGM, c'est exactement ça. Il est clair que, d'ailleurs, les agriculteurs pauvres des pays du Sud n'auront jamais les moyens de racheter leurs semences à chaque cycle de culture et que si on veut les empêcher, justement, de violer le brevet en replantant les semences d'une plante OGM, donc une plante brevetée, eh bien, le meilleur moyen, c'est de rendre cette plante stérile. In fine, la volonté des firmes semencières, c'est effectivement de fabriquer des plantes génétiquement modifiées que personne ne pourra replanter. Parce que si Monsanto a les moyens de mettre des détectives privés derrière chaque agriculteur qui plante des OGM aux États-Unis pour vérifier qu'il ne viole pas le brevet en replantant ses propres semences, il est évident qu'il ne pourra pas en faire autant avec chaque petit agriculteur des pays du Sud. D'où l'intérêt de projets comme le fameux projet Terminator, qui a pour but effectivement de faire des plantes qui sont stériles dès la deuxième génération. Je dirais que dans notre société marchande, où tout doit être marchandisé, eh bien, il est clair que la nature a commis un énorme délit, c'est de pouvoir se reproduire gratuitement. C'est comme les rayons du soleil qui pénètrent par les fenêtres. C'est un concurrent déloyal vis-à-vis des vendeurs de bougies. On est exactement dans la même logique.
Après, ça peut être présenté des fois comme une façon de lutter contre la dégénérescence.
Ça, c'est tous les arguments politiquement corrects qui sont mis en avant pour justement ne pas être obligé d'avouer la vérité. Mais évidemment, on peut en trouver des arguments comme ça. Hein. On peut nous dire que... Ben, d'ailleurs, le premier argument qui a été avancé pour justifier ces plantes stériles, style plante Terminator, stériles dès la deuxième génération, c'était de dire, ben, vous voyez, c'est un argument écologique, on contrôlera parfaitement la dissémination du pollen, puisque où qu'il aille, il ne pourra pas féconder, etc. Ben, voilà, on est exactement dans cette logique-là. Mais il est clair que le but derrière tout cela, c'est effectivement de la mainmise sur le vivant et de mettre sous tutelle les agriculteurs et en particulier les paysanneries du Sud.
Alors on a toujours pratiqué l'hybridation, mais là avec les OGM, c'est vraiment un point de rupture, on passe vraiment à autre chose.
Cet argument qui sans arrêt revient en avant, où on nous dit, mais vous savez, la technologie OGM, on ne fait rien d'autre que ce qu'a toujours fait la nature pendant des millénaires, et qu'on ne fait rien d'autre que ce qu'ont toujours fait les paysans à travers la sélection massale, c'est-à-dire la sélection qui consistait à repérer les meilleurs plants dans une espèce donnée, les recroiser avec une autre, etc., pour obtenir des plantes parfaitement adaptées. Donc ça, c'est vraiment extrêmement fallacieux comme argument. Pourquoi ? Parce que d'abord, effectivement, le transfert de gènes, c'est le moteur. C'est un des moteurs de l'évolution, effectivement. Mais il ne faut pas tout confondre. Ça s'est fait sur des échelles de temps géologiques. C'est-à-dire qu'en fait, les évolutions, les mutations, les transferts de gènes se sont faits de manière pas du tout orientée par l'homme, bien sûr, mais totalement aléatoire. Et donc avec une évolution parallèle de tous les éléments des écosystèmes. Et ça a conduit, bien sûr, aux multiples espèces et aux multiples variétés végétales, animales ou microbiennes, qui sont adaptées aux multiples niches écologiques de la planète. Alors qu'avec les OGM, qu'est-ce que l'on fait au contraire ? On décide, et là c'est plus de manière aléatoire, c'est de manière totalement orientée, d'apporter un avantage sélectif à un élément d'un écosystème, donc une plante par exemple, sur une échelle de temps extrêmement courte, c'est-à-dire quand tous les autres éléments de l'écosystème restent totalement figés. Autrement dit, on autorise, dans une orientation choisie par nous, un élément d'un écosystème de prendre le pas sur les autres et sur ses congénères.
Et ça, évidemment, c'est pas du tout la même chose. Ça conduit à quoi? Ça conduit au contraire à une perte de biodiversité. Et en plus, si on compare maintenant avec ce qu'ont toujours fait les paysans à travers la sélection massale, le paysan n'a fait en quelque sorte que forcer la main à ce que la nature pouvait faire elle-même. Par contre, quand on met un gène de poisson dans une fraise, moi je suis désolé, mais j'ai jamais vu un poisson se masturber sur une fraise. Donc ça y va pas tout seul, le gène. D'accord? C'est forcément intervention de la main de l'homme. Ça, c'est la première chose. On franchit la barrière des espèces. Et en plus, il faut bien savoir que lorsqu'on donne un avantage sélectif à une plante, par exemple, par transgénèse, cet avantage sélectif, souvent, ne peut s'exprimer qu'au prix d'une modification de l'environnement. Quand, par exemple, on fait des plantes qui résistent à un herbicide, c'est-à-dire qui ne meurent plus en présence de cet herbicide, elles peuvent l'absorber sans mourir. L'avantage sélectif que l'on a donné à cette plante ne pourra s'exprimer que si on met l'herbicide. Autrement dit, c'est au prix d'une adaptation de l'environnement à la plante. Alors que ce qu'ont toujours fait les paysans à travers la sélection massale, c'est au contraire adapter les plantes aux multiples niches écologiques de l'environnement, d'où l'extraordinaire patrimoine génétique agricole qui existe aujourd'hui avec les multiples variétés et espèces. Donc ça n'a rien à voir, mais évidemment c'est un petit peu plus long que de dire en 30 secondes « mais c'est la même chose que ce qu'a toujours fait la nature ». Et donc évidemment, par exemple, l'espace télévisuel ne nous permet pas toujours de l'expliquer ça. On favorise les idées courtes et les idées simplistes.
Mais pas sur France Inter, pas dans la base où j'y suis. On prend son temps et on donne du temps à Christian Vélo pour qu'il nous explique des choses que certains ont compris peut-être d'une façon beaucoup moins scientifique, d'une façon intuitive. Et il faut quand même rappeler qu'il y a en France 2000 collectivités locales qui se sont déclarées sans OGM. Alors, bien sûr que les autorités, les pouvoirs publics ne reconnaissent pas cette déclaration, ces prises de position, l'Union européenne non plus. Mais enfin, ça a quand même une valeur symbolique importante. La question, elle est, on parlait des Terminators et des plantes qui deviennent stériles à la deuxième génération, ce qui entraîne évidemment, quand on dit que c'est une promesse de développement pour les pays en développement, évidemment que non, puisque ça veut dire que les paysans du Mali ou de l'Inde ou de Malaisie sont obligés d'acheter des semences chaque année. Donc le développement, on voit pas très bien où il se situe. Et puis c'est aussi, donc il y a cette perte d'indépendance des paysans, de la paysannerie face aux semenciers. Et puis c'est aussi, qu'on sait pas les effets. Il y a quelque chose d'imprévisible et peut-être d'irréversible. Mais il y a cette pression des grandes multinationales et de l'agroalimentaire qui sont là, qui poussent et qui ont des moyens énormes, des lobbies énormes, qui font pression sur les opinions, qui font pression évidemment sur les décideurs politiques. On est toujours avec Christian Vélo.
Alors on entend souvent dire que oui, mais les OGM, on va faire des médicaments avec, et qu'en est-il ?
Alors, vous savez, effectivement, les OGM, on fait des médicaments avec. Ça fait 30 ans, 25 ans qu'on fait des médicaments avec les OGM. C'est l'insuline, c'est l'hormone de croissance, c'est des vaccins, c'est des interleukines pour soigner le cancer, etc. Il y a aujourd'hui environ 15% des produits actifs de la pharmacopée qui sont des médicaments produits par la technique du génie génétique, par la technologie OGM. Et aujourd'hui, on nous présente les plantes médicaments, donc des plantes génétiquement modifiées, pour qu'elle puisse produire une protéine d'intérêt pharmaceutique comme une technique révolutionnaire pour produire des médicaments. J'ai été rapporteur avec Gilles-Éric Serralini auprès du Conseil régional d'Auvergne, donc pour apporter la contradiction à la société Meristem Therapeutics qui veut promouvoir ce maïs médicament qui produit la lipase gastrique de chien pour soigner les enfants atteints de mucoviscidose. Donc évidemment, là, on va dire qu'il y a une utilité sociale. Mais les plantes médicaments, ce n'est pas du tout un système révolutionnaire nouveau pour produire ces médicaments. Ça fait 30 ans qu'on le fait en laboratoire. Donc là, véritablement, il y a une volonté de rouler les gens dans la farine et de faire croire que c'est totalement nouveau. Et puis s'il s'avère effectivement que la plante est le meilleur système pour produire une molécule d'intérêt pharmaceutique donnée, bien, on peut le faire dans la plante, mais il n'y a pas besoin d'aller cultiver des plantes en plein champ sur des hectares. Il suffit de cultiver des cellules de plantes en fermenteur, toujours en espace confiné, au lieu de faire des cultures de cellules animales ou de cellules microbiennes. Et en plus,
les cultures de cellules, ça ne dépend pas du climat, ça ne dépend pas de la longueur du jour, ça n'a pas besoin de produits phytosanitaires. Donc il n'y a en fait que des avantages à produire en espace confiné. Donc on voit bien ici la volonté de manipuler les opinions. Il y a, avec les OGM, il n'y a pas que les organismes qui sont manipulés, ça c'est clair. Et quand on nous dit, mais regardez, aux États-Unis, ça fait 15 ans qu'ils en mangent et il ne s'est jamais rien passé, c'est un mensonge. On ne peut pas dire qu'il s'est passé quelque chose, mais on n'a pas le droit de dire qu'il ne s'est rien passé sous prétexte qu'on n'a rien vu, tout simplement parce qu'on n'a pas regardé. Et on ne peut pas regarder. Comment savoir qui a mangé les OGM, qui n'en a pas mangé? Il n'y a pas de séparation des filières agricoles. On est incapable de dire que tel individu en a mangé, que tel autre en a pas mangé. Donc on ne peut pas faire de corrélation de cause à effet. Quand on voit le mal qu'ont les individus qui ont travaillé 30 ans dans un bâtiment amianté à faire reconnaître leur cancer du poumon comme une maladie du travail, on imagine le mal qu'aurait quelqu'un qui aurait des problèmes sanitaires liés à la consommation d'OGM, a prouvé que c'est lié à la consommation d'OGM. Donc, ce sont vraiment des arguments totalement malhonnêtes de la part de nombreux scientifiques qui veulent se faire les VRP des OGM.
Alerte ! Alerte ! Manipulation génétique ! Manipulation génétique !
Et il n'y a pas un seul scientifique au monde qui est capable de recenser ce que peuvent être à court, à moyen ou à long terme les conséquences d'une modification génétique sur un organisme. Nous, par exemple, il y a quelques mois, avec mon étudiant en thèse qui est là, Xavier, on a inactivé presque un an un gène qui est impliqué ou qui a pris, en tout cas, qui a une fonction très intimement liée avec le métabolisme de l'alcool. On a inactivé ce gène et dans un certain nombre de champignons dans lesquels on avait inactivé ce gène, eh bien, nos champignons qui non seulement sont capables de se nourrir d'alcool, mais qui ont aussi une vie sexuelle, étaient devenus stériles. On a touché le métabolisme de l'alcool et le champignon est devenu stérile. Alors pour nous, c'est hyper intéressant. On se dit, tiens, quel est le lien? On rebondit là-dessus. D'ailleurs, on s'amuse à dire que maintenant, on étudie la relation entre le sexe et l'alcool chez notre champignon. Mais ça prouve à quel point on ne maîtrise pas les choses. On ne maîtrise pas les conseils. Et des exemples comme ça, il y en a plein. Et prenez l'exemple du saumon géant au Canada. Ce saumon dont on a modifié son gène d'hormones de croissance pour qu'il fasse plus d'hormones de croissance et donc qu'il grossisse plus vite et qu'il devienne plus gros. C'est le poisson qui est sur le point d'être commercialisé au Canada, fait 5 ou 6 fois la taille du poisson normal. Eh bien, on nous parle, pour les OGM, d'équivalence en substance, c'est-à-dire cette fameuse notion qui est retenue par la plupart des instances gouvernementales et qui consiste à considérer qu'un OGM ne diffère de l'organisme à partir duquel on l'a fabriqué, l'organisme conventionnel de départ, que par le gène qu'on a modifié ou le gène qu'on a introduit dedans. Donc ce poisson géant, d'après cette notion d'équivalence en substance, ne devrait différer du poisson normal que par la taille. Alors certes, il est plus gros, mais il est aussi beaucoup plus agressif, il a une prédisposition au diabète et il a la tête déformée. Donc voilà, ça montre à quel point on ne maîtrise rien des conséquences d'une modification génétique. Et on ose nous parler d'équivalence en substance sous prétexte que d'apparence, en dehors du caractère que l'on cherche à modifier, il ne s'est rien passé d'autre. Mais là, évidemment, c'est même l'apparence qui est... Alors à tel point que les poissonniers au Canada n'en voulaient pas de ce poisson. Ils ont dit, attendez, on va pas mettre ça sur l'étal, tout le monde va se barrer en courant. On leur a dit, mais c'est pas grave, vous allez le vendre sous forme de filet. Voilà, alors au nom de quelle urgence sociale qu'est-ce qui justifie, quelle est l'urgence, le bénéfice pour la société qui puisse justifier qu'on fasse courir des risques aux citoyens, qu'on fasse courir des risques aux consommateurs et se permettre de court-circuiter donc, une évaluation sanitaire sérieuse de ces OGM. Quoi.
C'est extraordinaire d'entendre des phrases pareilles. Il y a l'urgence sociale. L'urgence sociale passerait avant quoi? Avant le profit, tout simplement. Et c'est extraordinaire que ce soit pas une évidence. C'est quand même formidable qu'on se dise, qu'on soit obligé de dire et de redire et d'affirmer que la volonté des peuples doit se placer avant la volonté du profit, comme si ça tombait pas sous le sens. Il y a quelque chose qui a été quand même inversé. Je sais pas quand ça s'est passé, mais en tous les cas, il y a bel et bien une inversion des préoccupations. Christian Vélo.
C'est-à-dire que la question qui devrait être posée avant tout, lorsque l'on fait une application en science, quelle qu'elle soit, c'est de dire quel est le bénéfice, quelle est l'utilité sociale et qui est demandeur. Si personne n'est demandeur, s'il n'y a pas d'utilité sociale, alors pourquoi fabriquer des OGM? Je veux dire, ou pourquoi proposer cet OGM ? Si, je crois qu'avec les OGM agricoles, ce sont ni les consommateurs ni les agriculteurs qui sont allés frapper à la porte de Bayer ou Monsanto pour dire on veut des OGM. Donc c'est vraiment, une fois de plus, une situation où on met les citoyens devant le fait accompli.
Alors si 80% de l'opinion en France ne veut pas bouffer de l'OGM, par contre, l'industrie, on va dire, agroalimentaire, a désigné des demandeurs. Ce sera les pays du tiers-monde.
Elle a désigné des demandeurs, absolument. C'est le terme approprié, parce qu'en réalité, quand on y regarde d'un petit peu plus près au niveau de ces pays du Sud, on se rend compte qu'ils ne sont pas demandeurs. Ce sont bien sûr quelques agriculteurs qui ont accepté de se lancer à corps perdu dans ces OGM parce qu'on leur a fait miroiter des productions meilleures, on leur a fait miroiter un enrichissement, etc., etc. Mais on fait miroiter, on propose même de donner les semences gratuitement la première année, etc. Et le problème, c'est que
du dealer, ça.
Tout à fait. Mais la majorité, donc il y a une résistance énorme dans les pays du Sud. La majorité des paysans, des consommateurs n'en veulent pas non plus. Et ça, bien sûr, on n'en parle pas. Les faucheurs d'OGM ne sont certainement pas des passéistes, des anti-sciences ou des obscurantistes. Les faucheurs d'OGM sont au contraire des éveilleurs de conscience qui ont permis d'alerter l'opinion publique et de faire en sorte qu'aujourd'hui, il y ait quand même un débat qui puisse exister. Parce que s'il y avait eu débat, un véritable débat national sur la question des OGM, qui est un véritable choix de société, il n'y aurait jamais eu de fauchage. Et inversement, c'est parce qu'il y a des fauchages qu'aujourd'hui, il y a un débat. Et y compris dans le monde de scientifiques. Alors on pourrait dire, je comprendrais que les faucheurs aillent faucher des champs commerciaux, mais pourquoi ils vont faucher des champs expérimentaux ? Quand on fait une simulation d'une attaque chimique dans le métro pour entraîner la coordination des secours, on met tous les ingrédients, mais on ne met pas l'agent chimique quand même. Eh bien là, on veut évaluer le risque que représente potentiellement une plante transgénique, mais on nous la met en plein champ pour évaluer ce risque. Alors vous allez me dire, mais les plantes, leur destinée c'est quand même d'être en plein champ, donc à un moment donné, il faut bien passer en plein champ. Oui, tout comme à un moment donné, quand on teste un médicament, il faut effectivement bien faire des essais sur l'homme. On ne peut pas se cantonner à des essais sur les animaux, mais il faut d'abord que les premiers essais aient été satisfaisants avant de faire des essais cliniques. Mais le problème, c'est qu'avec un médicament, si je puis dire, on a démontré l'utilité, l'effet bénéfique qu'il pouvait apporter dans telle ou telle maladie. Ici, le problème avec les plantes agricoles, c'est que personne n'a démontré en amont l'utilité sociale. Si demain, il y a un OGM agricole dont l'utilité sociale est évidente et que les citoyens sont demandeurs, probablement qu'on acceptera qu'on puisse court-circuiter un certain nombre d'étapes dans l'évaluation parce qu'il y aura un bénéfice pour l'ensemble de la société qui sera évident et qui sera gigantesque. Mais là, on n'en est pas là. On n'en est pas là. Il n'y a aucun bénéfice pour qui que ce soit, si ce n'est, bien sûr, pour ceux qui font la promotion de ces OGM, qui les fabriquent et qui les vendent. Mais voilà.
Combien de sociétés dans le monde, alors ?
Très peu. Je ne sais pas, ça se compte sur les doigts d'une main. Monsanto a été jusqu'à détenir 80% des brevets sur les plantes, quand même. Et puis, vous savez, les histoires de ces firmes, c'est des fusions-acquisitions qui se concentrent, donc, qui un effet de concentration de ces firmes, et donc de la puissance de ces firmes, qui est extraordinaire à l'échelle mondiale. Donc, c'est vraiment extrêmement dangereux de mettre ces plantes, et donc l'alimentation mondiale, dans les mains de quelques firmes qui vont contrôler donc, le tout à l'échelle mondiale.
Alerte ! Alerte ! Manipulation génétique ! Manipulation génétique !
Éveilleur de conscience, merci à Christian Vélo, merci à Antoine Chao pour ce reportage. Alors, les faucheurs volontaires d'OGM, merci. Vous pouvez retrouver des informations sur ce petit monde sur www.monde-solidaire.org ou sur InfoGM, www.infogm.org. InfoGM tout attaché, hein, www.infogm.org. Et puis, préparez-vous le 27 mars prochain à 9h du matin. Où serez-vous? Où serons-nous? Très probablement devant le tribunal de Toulouse pour le procès des faucheurs volontaires, dont José Bové. 27 mars, on a le temps de se préparer. Et puis, un autre rendez-vous au Mali. Le Forum mondial pour la souveraineté alimentaire se tiendra du 23 au 27 février 2007 à Sélingué, un village situé à 2 heures de route de Bamako, au bord d'un lac. Et on nous précise que la route qui mène à Selengue est asphaltée et facile d'accès tout au long de l'année. Ce qui est important à retenir dans une annonce comme ça, c'est souveraineté alimentaire. Ça ne nous dit pas grand-chose à nous ici, mais je peux vous dire que dans un pays comme le Mali, c'est évidemment très important. Toutes les informations qu'on vient de vous donner sont... vous pourrez les retrouver sur le site de France Inter, www.franceinter.com, également sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission. À la technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Jean-Noël Vélan, c'est Yann Chouka et Koyen Guyen qui ont réalisé cette émission, avec Pascal Yellow dans le rôle de l'assistante et Christophe Humbert dans le rôle du chef du répondeur, dont le numéro est le 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.